dans l'intérêt de la paix des familles, qui n'est pas la paix des familles, mais un rapport commercial qui tient à continuer. Donc il y a tout un jeu de don et de contre-don. Enfin, c'est plus compliqué que ça, parce que c'est pécuniaire aussi, hein. Il y a une dimension quantitative monétaire, presque, mais alors, il n'est pas chiffrable. C'est ça, la clé. C'est qu'on ne peut pas la chiffrer. Hein. Le choix de ne pas essayer de faire de Stone directement son interlocuteur, c'est un choix de s'appuyer quand même sur sa famille, sur son frère. Le choix d'essayer d'insérer Stone dans le circuit sans laisser son frère, c'est un autre choix. Les libertés qui sont données aux deux agents qui se contrôlent l'un l'autre à Londres sont des libertés assez grandes, puisqu'ils peuvent choisir de ne pas acheter du tout, ou d'acheter des produits dans une certaine gamme, mais à leur discrétion, à tout un tas d'égards, c'est quand même pas extrêmement précisé. Or, il s'agit d'un commerçant spécialisé. C'est quelqu'un qui connaît le marché, qui le connaît au debout. On remarque aussi dans son texte, ce que je disais déjà, c'est qu'il n'y a pas de prévision possible sur l'évolution du marché, enfin, c'est du moins une prévision extrêmement difficile, et que donc c'est toujours un petit peu un pari, mais c'est un pari qui est moins risqué quand les gens connaissent bien l'état du marché à chaque fois. Tout ce que je viens de dire vaut a fortiori pour les négociants plus généraux, hein, je vous en donnais quelques exemples dans le texte que j'ai fait circuler, ou qui, effectivement, repose sur une gamme de fournisseurs, et donc pour chaque fournisseur, sont forcés de monter cette relation de confiance pour chaque produit. Bon. Donc, hors rencontre ponctuelle entre des personnes qui ne se connaissent pas, ce qui n'est probablement pas si fréquent qu'on pourrait le croire, chaque transaction individuelle, c'est-à-dire chaque ligne du livre de compte, en réalité, représente un double acte de confiance entre un acheteur et un fournisseur spécifique. Je te vends ce que je dis, te vends, ou le vendeur, à quoi l'acheteur répond, je te paye le meilleur prix qui soit. Puisqu'il y a aussi l'autre côté, qu'on peut particulièrement mettre dans le cas des commissionnaires, là encore, puisque le commissionnaire s'engage à essayer de vendre au meilleur prix possible, et n'y arrive pas toujours, avec toutes les tensions que ça génère. Hein. Là encore, si un commissionnaire n'arrive pas à vendre au prix que le vendeur espérait, que le commettant espérait, le commettant va se demander si c'est le commissionnaire qui a fait une bêtise, mais il ne peut pas nécessairement le conclure, puisque compte tenu encore une fois des fluctuations du marché, on ne peut pas savoir a priori que quelqu'un a fait une bêtise. Peut-être que c'était bien le meilleur prix possible. Bon. Les stratégies de relations de confiance, de construction de relations de confiance ont déjà été étudiées. Bon, David Arncock, Sylvia Marzaghali pour Bordeaux en ont parlé. Je vous ai donné aussi des exemples de gens qui construisent une relation de confiance entre eux et un de leurs fournisseurs ou un de leurs commissionnaires. Le problème, c'est comment ces relations de confiance, qui sont centrales dans l'acte d'échange, puisqu'en réalité, elles déterminent le niveau de profit, en grande partie, vont pouvoir se traduire dans la comptabilité. A priori, on pourrait penser qu'elles ne peuvent pas. Puisque, quand vous faites une vente ou un achat, les deux sont parfaitement symétriques, hein, que ce soit un envoi que vous envoyez à un commissionnaire, ou un produit que vous achetez pour ensuite l'écouler. Le degré auquel cette vente ou cet achat seront un succès dépend largement de la qualité de la prestation de votre interlocuteur. Si votre fournisseur a une prestation de qualité, c'est-à-dire s'il vous donne un produit qui correspond bien à sa gamme de prix, s'il n'y a pas de compris si c'est un produit de qualité, vous allez pouvoir faire un profit. Et ce profit dépend de cette adéquation. De même, si vous envoyez une marchandise à un endroit donné chez un commissionnaire, c'est l'effort du commissionnaire pour trouver cette marchandise au meilleur prix sur le marché local qui va véritablement être à la base du succès ou de l'échec de votre opération. Bien plus que des états de marché respectifs qui, au fond, ne sont pas crédibles à un instant T et certainement pas au moment où vous envoyez la marchandise, surtout à longue distance. Donc, la clé de chaque transaction, isolément, si elle va réussir ou non, c'est ce rapport de confiance, c'est ce rapport de crédit, c'est là qu'il faut parler de crédit, mais de crédit au sens général. Hein, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement un crédit, en fait, c'est plusieurs types de crédit. J'aurais bien envie d'avoir une espèce de typologie du crédit, une typologie du crédit qui serait d'abord un crédit simplement en termes d'histoire passée. Je fais crédit à cette personne des services qu'elle m'a déjà rendus. Et au fond, c'est le sens fondamental d'une relation de crédit pour un marchand. Alors évidemment, nous, on pense très bancaire, mais en réalité, je fais crédit au sens où cette personne m'a déjà aidé à réaliser du profit Elle a montré dans une relation passée à plusieurs reprises qu'elle me permettait de réussir de manière économique, donc je lui fais crédit pour l'avenir. Ça, c'est un premier sens de crédit. C'est faire crédit. Ça, c'est important. Alors, il y a un deuxième sens du crédit, qui est un sens plus de droit, en France, qui est la mobilisation du capital. Et là, c'est un petit peu différent, puisque ça se passe dans l'un ou l'autre sens, mais les deux personnes, c'est l'autre extrême, d'une certaine façon, les deux personnes donnent du capital. Alors là, c'est bon, hein, ou tout, ou dur, suivant les cas. Bon, évidemment, moi, je suis en zone anglo-saxonne, en zone protestante, etc. Enfin, protestante, anglo-saxon, ça n'existe pas. Donc, protestante, il n'est pas question d'usure ou de problème de ce genre-là, personne ne se demande. Quoique je me suis toujours demandé pourquoi les contrats étaient toujours faits à 3 mois ou à 6 mois et que l'intérêt était censé courir après 3 mois ou 6 mois, même en Angleterre et aux États-Unis. Je me suis toujours demandé si c'était une trace de pratique précédente, puisque c'est toujours comme ça que c'est le délai. Hein. C'est à 3 mois et ensuite payable à 3 mois. Même aux États-Unis en 1780, ça continue à être comme ça. Donc ça, je me suis demandé. Mais en tout cas, à cause, le problème de l'usure se pose pas, mais effectivement, il y a un deuxième sens qui est je donne du crédit, ça peut donner la capacité de mobiliser un capital. Et puis il y a un sens intermédiaire qui est extrêmement important aussi, qui est le crédit temporel. Je donne un délai de paiement. Alors, en un sens, c'est aussi du capital mobilisable, à ceci près que ça ne mobilise pas de capital effectif, c'est la création, en réalité, d'une monnaie papier, bel et bien, qui est fondée sur le livre de compte. Et ça, en volume, moi, dans tous les marchands que j'ai fréquentés, l'écrasante majorité de leur chiffre d'affaires est constituée de dettes, de book debts. Je ne sais pas comment ça se dit en français, il faudrait que j'apprenne quand même à parler en français un jour, mais ce sont des lignes de crédit qui a priori ne portent pas intérêt, qui sont ouvertes sur les livres des fournisseurs ou sur les comptes des clients. Et ça, c'est de loin, en termes de chiffre d'affaires, le plus important. Alors, c'est une quasi-monnaie au sens où je dirais, elle n'est pas négociable. Elle ne circule pas. C'est vrai qu'elle ne circule pas, mais il n'empêche que ça génère des possibilités à crédit effectif. Les 350 livres que je ne verse pas à mon fournisseur londonien parce qu'il va me faire crédit à 6 mois au sens crédit délai de paiement, je peux les utiliser ailleurs. Et à ce moment-là, pour répondre au camarade Giral Hot, la même somme d'argent peut être utilisée en même temps par deux personnes différentes. Parce que ces 350 livres-là, je les ai utilisés pour acheter de la farine de mauvaise qualité à New York, et en même temps, puisque mon fournisseur new-yorkais me fait crédit, je les utilise pour envoyer de la mélasse en France, par exemple. Et je peux faire les deux en même temps, avec la même somme d'argent. Ce qui quand même représente une espèce de masse monétaire M3, j'ai l'impression. Et à ce moment-là, si on réfléchit en ces termes, c'est de loin le circuit le plus important, puisque c'est sur ces circulations-là que repose l'ensemble des mouvements de capitaux, en réalité, beaucoup plus que sur du capital réellement mobilisable, de type argent liquide, évidemment, surtout aux États-Unis, on est toujours en train de courir derrière le moindre petit caillon de cuivre, parce qu'il n'y a jamais assez, mais même l'être du change formalisé. C'est relativement minoritaire par rapport au book debt. Alors, revenons à nos comptabilités. Parce que, justement, et là, ce que je vous ai fait circuler, c'était un peu, d'ailleurs, il faudrait que j'en récupère un quand même. Voilà, merci. Ce que je voudrais brièvement vous montrer là dans le quart d'heure qui me reste, par rapport à ce que je vous ai envoyé, c'est supplémentaire, alors que là je n'ai pas assez travaillé. Normalement, l'idée serait de voir comment ces relations de crédit structurent en réalité les comptabilités marchandes. L'idée est simple, chaque compte ou ensemble de comptes représente une relation, d'abord. C'est-à-dire qu'il faut voir les comptes marchands non pas comme quelque chose de quantitatif, comme quelque chose destiné à établir un bilan, même si c'est parfois utilisé pour ça, assez régulièrement. Enfin, régulièrement, c'est très variable. Donc, certainement, quand quelqu'un meurt, quand un partenariat est dissous, on fait le bilan, souvent avec les plus grandes difficultés, parce que c'est pas prévu pour ça au départ, généralement. Certains se débrouillent grâce à la comptabilité en partie double pour effectivement aboutir à une situation dans laquelle ils peuvent faire leur bilan annuel. C'est recommandé par tous les manuels, là encore. Ça doit être fait par 5% des gens, a priori. Ça, c'est comme de s'arrêter soigneusement à chaque stop. c'est des choses qui se font assez rarement. Et là, c'est pareil, moi j'ai très rarement vu des marchands faire leur bilan tous les ans. Comme dire, pourtant, tous les bundles disent, vous faites bien votre bilan tous les ans, personne ne le fait. Ça dure 2, 3, 4 ans, c'est absolument épouvantable. Alors, donc, pas bilan, mais histoire. Narration, oui. Si vous réfléchissez à la façon dont les comptabilités sont montées, qu'est-ce qu'il y a comme type de compte dans une comptabilité? D'abord, le compte de base, c'est le compte personnel. Par essence, c'est l'histoire de la relation entre l'opérateur et son interlocuteur, qu'il soit fournisseur ou qu'il soit client. Et le compte, finalement, raconte ce qui s'est passé avec cette personne-là. Donc ça, c'est le premier niveau, le niveau où on fait crédit à quelqu'un. Là, je peux le voir, c'est mon compte commissionnaire, c'est mon compte fournisseur, c'est mon compte client. Et là, je peux voir ce qui se passe, ce qui s'est passé depuis 5-6 ans avec cette personne, pas nécessairement avec ce marché. Il y a un deuxième type de compte qui est généré, à mon avis, et alors là, j'ai pas fait mon travail, donc vous pouvez me dire que j'ai tort parce que j'ai aucune preuve. Hein, c'est une hypothèse pure et simple, mais je soupçonne que le deuxième type de compte est un, qu'on trouve quand même assez fréquemment, ce sont des comptes d'actifs de type lettres de change, par exemple, bills of exchange, ou bills payable, bills receivable, hein, dette et crédit, renvoient à des mobilisations de capital, au sens prêt, emprunt. Parce qu'à partir de où vous avez une mobilisation de capital, ça veut dire que vous êtes un gros opérateur. Pratiquement, automatiquement, les gens qui sont capables de prêter des sommes de manière formalisée, de manière importante, sont forcément des gens qui ont un capital important. Alors là se pose le problème du contrôle de vos flux de capitaux. Et pour contrôler vos flux de capitaux, le compte personnel ne suffit plus. Et c'est souvent là qu'on va passer en partie double. Parce que là, effectivement, la partie double permet assez facilement, au moment où vous en sentez le besoin, pas nécessairement à chaque année, mais si par exemple un de vos gros associés a fait la pub bus, ça peut arriver, vous pouvez rapidement voir où vous en êtes du point de vue crédit-débit. Hein, quels sont vos prêts, quels sont vos encours, etc. Qu'est-ce que vous avez dehors, qu'est-ce qui va rentrer, ça c'est facile, sur la dette formelle. Et puis, il y a le troisième point, ça je dois dire que c'est celui qui me donne le plus de mal, c'est la gestion des délais de paiement. Puisqu'en fait, la gestion des délais de paiement, c'est intermédiaire, mais c'est extrêmement important. Le gros du volume passe par là, hein, dans pratiquement n'importe quelle entreprise. Donc il va, alors, et effectivement, ni la comptabilité en partie simple, ni jusqu'à un certain point la comptabilité en partie double, me permet de jouer, d'observer facilement la temporalité du paiement. Les écritures comptables, c'est ce que je mets, les mettent à peu près jamais en valeur dans les opérations courantes, les bilans périodiques permettent, et encore pas toujours, de le suivre. Alors, le crédit de paiement apparaît comme une catégorie intermédiaire parce que, à mon avis, il est consenti à des clients ouverts dans un cadre coutumier, mais il s'insère dans un va-et-vient d'obligations non quantifiables. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est un délai de paiement qui n'est pas formalisé comme une note à 3 mois ou à 6 mois, ça veut dire que j'ai un droit régalien en tant qu'opérateur de dire, ben voilà, je vais laisser traîner le compte de machin, ou alors je vais aller le sonner en disant, disons, Coco, ça fait un an et demi que tu me dois 550 livres pour faire une livrée, j'aimerais bien quand même un versement. Et autrement qu'avec du paquet en monnaie singe, comme tu me donnes d'habitude sur la place de Charleston. Bon. Et ça, c'est quelque chose qui varie avec l'état du marché. C'est-à-dire que c'est la variable d'ajustement. Je vais intervenir sur les délais de paiement en fonction, non seulement de mon rapport personnel, mais de l'état général de ma situation par ailleurs. Donc je ne peux pas le faire apparaître dans mes comptes parce qu'il n'apparaît pas au même moment, il n'apparaît pas de la même façon à tout moment. À certains moments, avec certaines personnes, il est sans importance, jusqu'au cas, alors ça je crois que c'est Natacha Cochery aussi qui en parle, le cas bien évident de la personne à qui je vais donner les paiements pour les siècles des siècles, parce que je sais que de toute façon, il ne paiera jamais.